les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. La semaine dernière, nous recevions Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie, livre qui a reçu lundi le prix Goncourt. Vous pouvez écouter cette émission en podcast, balado, diffusion. Un membre de l'Académie Goncourt est avec nous aujourd'hui pour réagir à ce prix. Nous consacrerons aussi cette émission au livre pour la jeunesse avec des entretiens qui s'adresseront, vous allez l'entendre, à toutes les générations. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Alors que le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil a ouvert ses portes cette semaine en France, c'est une grande artiste qui a consacré une partie de sa vie aux enfants qui est morte mardi à l'âge de 86 ans. Nous rendrons hommage à Anne Sylvestre avec un extrait d'un entretien qu'elle nous avait accordé et le témoignage de son ami Philippe Delerme. Nous serons avec Tahar Benjelloun, membre de l'Académie Goncourt, pour un livre sur la philo expliquée aux enfants. Un ouvrage qui aborde toutes les notions clés de la philosophie en intégrant la valeur de l'écologie. Il sera question des bruits qui nous entourent avec la dessinatrice libanaise Zeina Birached. Nous serons en duplex avec le belge Karl Norak qui adapte un conte d'Andersen et nous irons dans une bibliothèque de Montreux en Suisse. Une émission chargée aujourd'hui, alors voici tout de suite les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square à Montréal. Thomas Osset représente la France à quelques 7000 km de vous dans la librairie L'Amandier à Puteaux. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Ça va bien?
Ouais, ça va super.
Ça va plutôt bien, comme on dit à Puteaux. Je suis le seul à vous faire cette blague vaseuse, je crois.
Mais je l'aime beaucoup.
Et enfin pour la Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Manuel.
Vous publiez La philo expliquée aux enfants paru chez Gallimard Jeunesse. Il y a plein de choses à décrypter. Nous le ferons tout à l'heure avec vous. Avant cela, un mot sur le prix Goncourt. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Hervé Le Tellier a publié un roman populaire et captivant comme une série télé avec L'Anomalie, bien écrit, efficace. Il était, je le rappelle, dans la librairie francophone la semaine dernière. Quelle est votre réaction, Tahar?
Oh, j'étais très heureux de ce choix. Nous étions d'ailleurs, nous avons 8 voix. D'un coup.
8 voix contre 2 pour Maëlle Renoir.
Maëlle Renoir, mais qui était aussi un très bon livre, qui a écrit un très bon livre. Mais là, par le temps qui court et puis cette crise sanitaire qui dure, on a pensé qu'il faut donner au grand public un livre qui les fait voyager un peu, qui les fait un petit peu rêver. Parce que c'est un livre où il y a plusieurs livres en même temps.
Oui, c'est ça.
Plusieurs personnes. C'est un livre assez extraordinaire. À peine science-fiction, c'est pas vraiment la science-fiction,
ouais,
ça se passe
en
juin 2021 et c'est très très bien écrit et puis c'est pour nous ça a été une très bonne chose.
Alors il est publié par Gallimard, une maison d'édition que vous connaissez bien. J'ai une question toute simple, Tahar, un petit éditeur peut-il avoir le prix Goncourt aujourd'hui?
Ben, tout à fait, la petite Jamel
Jaili Amadou Amal,
elle a failli l'avoir.
Elle l'a pas eu.
Ben, il n'a pas eu parce que Le Tellier avait on a fait un choix collectif. Mais
ça fait 40 ans, Tahar Benjelloun, que le Goncourt n'a pas été attribué à un petit éditeur. Plus de 40 ans.
Bon, ben, de toute façon, vous savez, nous, on ne donne pas le Goncourt à des éditeurs, on le donne à des écrivains, à un livre.
Bien sûr.
Et le livre de Jaili Amal, Les Impatientes, est un témoignage plutôt. C'est un témoignage sur une situation atroce.
Enfin, elle était philaniste, elle est dans les 4 derniers.
Mais j'ai lutté pour elle jusqu'au bout.
Oui, c'est vrai.
Je l'ai découverte au mois de juin dans une pile de bouquins. J'ai commencé à lire, j'étais pris à la gorge par cette situation. Évidemment, c'est pas très littéraire, mais en même temps, c'est un témoignage qui raconte une Afrique d'aujourd'hui qui est absolument scandaleuse. C'est la condition de la femme est une des pires au monde.
Alors, elle a eu le prix Goncourt des lycéens cette semaine. On la félicite, on est ravis pour elle.
C'est magnifique.
Le Goncourt n'a jamais été attribué à un auteur de l'Afrique subsaharienne. Beaucoup ont dit que c'était une occasion historique pour le prix Goncourt de décerner une femme déjà et en plus de l'Afrique subsaharienne.
Ça aurait pu, mais il y avait parmi nous des personnes qui disaient c'est un livre qui n'est pas très littéraire et ça a joué contre elle. Mais bon, moi je l'ai défendu jusqu'au bout. Elle a pu quand même avoir assez de voix pour figurer sur la dernière liste.
Alors une autre question sur les femmes, Tahar Benjelloun, parce que sur le prix Goncourt aussi on se pose des questions. Depuis 1903, 13 femmes ont eu le Goncourt. En 117 ans, 13 femmes sur 117. Ces 40 dernières années, une fois encore, 6 femmes contre 34 hommes. Disons les choses, il y a un vrai scandale, Tahar.
C'est pas... oui, mais c'est la situation sociale est comme ça.
Non, la situation sociale n'est pas du tout comme ça.
Non, je veux dire par là, on ne donne pas le prix à une femme ou à un homme, on donne un bon livre, bon, qu'il soit écrit par une femme, ce serait formidable.
Ça veut dire que les femmes ne font pas de bons livres.
Si. Mais d'ailleurs, sur notre liste, on avait sélectionné quelques-unes, c'était une très bonne chose.
13 femmes en 117 ans.
Oui, mais ça, il faudra...
En parler aux autres.
Faire le procès à toute l'Académie Goncourt depuis 1905.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
vrai que c'est... Bon, avant, il y avait vraiment un parti pris. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est plus le cas. On lit et on fait vraiment attention. Mais bien sûr, il n'y a pas de discrimination.
Alors c'est vrai que les 20 dernières années, ça s'améliore un peu. Vous êtes sur la bonne pente.
Un peu.
Bon, merci Tahar Benjelloun.
Leïla Slimani. Leïla Slimani, bon... La prochaine fois, peut-être, je sais pas.
En tout cas, 6 femmes en 40 ans et 13 en 117 ans. Merci Tahar Benjelloun. On va parler de votre super livre pour les 10-15 ans sur la philo dans quelques minutes. Avant cela, on parle des bruits qui nous entourent avec une grande auteure de BD libanaise, une femme. Bonjour Zaina Abirached.
Bonjour.
Vous connaissez cette petite chanson enfantine libanaise?
Ça me dit quelque chose.
Voilà, on a trouvé ça dans notre coffre à son.
Vous êtes très fort.
Bon, vous faites partie des invités du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, que nous soutenons. Vos BD, Le Piano Oriental ou Prendre Refuge, réalisé avec le prix Goncourt Mathias Sénard, ont connu un grand succès. Vous êtes aussi auteur pour la jeunesse et vous publiez le grand livre des petits bruits chez Casterman. Vous dites avoir été marqué par la ville de votre enfance, Beyrouth, et par les bruits de cette ville, les pires comme les plus rassurants, je suppose.
Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans les années 80 à Beyrouth, donc dans une moitié de ville, puisque Beyrouth était coupée en deux par la ligne de démarcation. Et j'ai été en effet très marquée par l'environnement sonore. Et lors de l'écriture de mon premier roman graphique, Le jeu des hirondelles, j'ai voulu, plutôt que de représenter la guerre en la dessinant de manière frontale, la représenter symboliquement par le son.
Oui, c'est ça. Les sons de la musique aussi, hein, ça a été très important pour vous.
Oui.
C'est ce qui a marqué votre enfance.
Tout à fait.
Avec le piano oriental.
Absolument.
Le fameux piano qui existe.
Qui existe, oui, que mon arrière-grand-père a inventé dans les années 50. Et c'est en effet un livre dont le personnage principal est un piano, donc le son est l'invité numéro un de ces pages-là.
Alors, ce livre des bruits, hein, qui est très grand, un livre cartonné que j'ai dans la main, voilà, qui est assez imposant, on va dire, il vise à rassurer les enfants, à leur faire comprendre les bruits qui les entourent.
Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours amusée. Déjà, toute petite, j'adorais inventer des onomatopées au moindre geste du quotidien. Ensuite, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis rendu compte qu'en dessinant, j'entendais le dessin et que j'avais envie de... À chaque fois, la tentation était forte de partager ce côté sensoriel du dessin avec le lecteur. Donc évidemment, dans mes romans graphiques, il y a beaucoup d'onomatopées, il y a toujours une place de choix au son. Et là, dans le grand livre des petits bruits, c'était vraiment le paroxysme un peu de l'exercice, puisqu'il n'y a quasiment... Il n'y a pas de texte, en fait.
Oui, c'est
le
ça.
Texte, ce sont des onomatopées.
On peut tout faire vivre avec les bruits, hein, les bruits des feuilles, là, par exemple, qui sont devant moi avec mes notes, le bruit de la bouteille d'eau, le plastique, par exemple. Et vous donnez le rythme en même temps, et ça peut, c'est pas mal, Zaina. Alors, c'est vrai que ces bruits-là, en fait, c'est un grand concert, en fait, avec les sons de la vie quotidienne. Le son des oiseaux, le son de la douche, le son diffusé par la radio, les sons multiples de la rue. Vous entendez Beyrouth en ce moment. Le son d'une rue de Beyrouth. Quel est le son qui vous happe le plus, Zeynab et Rached, dans la rue? Quel est celui qui vous capte?
Moi, ce que j'adore, c'est les petits bruits, justement. Ceux qui sont pas forcément ceux qu'on entend, en tout cas d'une manière évidente, comme là, le klaxon.
Les voitures qui passent.
Oui, les voitures qui passent. Ou le marteau-piqueur, par exemple, quand on pense à une ville comme Beyrouth. Et dans le grand livre des petits bruits, j'ai eu envie d'explorer même les bruits minuscules du plic-ploc de la pluie sur le paravent d'un abribus, par exemple. Le roux-roux-roux des pigeons sur le rebord d'une fenêtre, enfin même
vous
des.
Vous faites bien
des...
le pigeon.
Oui, merci. Ça fait 3 mois que je m'entraîne.
Ouais, c'est ça.
Enfin voilà, plutôt de traquer les tout petits bruits qui sont finalement très familiers et que souvent on dit de la même manière.
C'est ça.
Ce sont les mêmes onomatopées qu'on utilise pour parler de ces sons-là.
Alors sur une double page de ce grand livre cartonné, vous décrivez par exemple les dessins et les onomatopées de la plage. Alors on va faire un voyage ensemble, Zeynab et Rached. Je vous montre la double page, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Hop. Faut que j'écarte les bras parce que... Donc faisons ce voyage, vous êtes comment sur la plage, Zeynab et Rached, dans ce moment-là? Dans quelle tenue? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous?
Ah, c'est agréable. Alors j'ai un grand chapeau sur la tête et je suis en train de faire un château de sable avec une petite fille. Donc si on porte, si on tend bien l'oreille, on peut entendre le tap-tap-tap-tap de la pelle sur un des murs du château. On entend les vagues là, il y a sans doute sûrement à un moment donné le de quelqu'un qui marche sur le sable, il y a peut-être le vendeur de glace qui va passer, tililou, 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 peut-être aussi une jeune femme étendue sur le ventre qui sirote un jus rafraîchissant en tournant les pages d'un livre, enfin voilà.
Enfin, vous ne vous en rendez pas compte, mais Zeynab et Rached lit son livre.
Voilà.
Hein, parce que c'est ça. Vous arrivez à lire votre livre qui n'a pas de texte.
Mais voilà, mais en fait, ce que j'ai très envie surtout, c'est de donner envie aux lecteurs de lire ce livre à haute voix.
Ouais.
Parce que
c'est dur hein, quand même.
C'est un exercice périlleux.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que ça peut être très très rigolo de partager ça avec un enfant ou même un adulte d'ailleurs. Donc voilà, de s'amuser à lire ces onomatopées à haute voix, peut-être d'en inventer aussi soi-même, pourquoi pas, c'est ouvert.
Alors il y a le son des bars et des restaurants aussi. C'est chaleureux hein, le son des bistrots qui sont fermés en ce moment dans plusieurs pays.
Oui.
Ça vous manque, vous?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mais oui.
C'est le son qui vous manque ou c'est la
convivialité? C'est l'atmosphère générale, la convivialité, l'ambiance, tout ça. Oui, oui, évidemment.
Pensez-vous que les sons de notre enfance, Zeynab et Rached, construisent d'une certaine façon notre identité ou en tout cas notre goût pour certains lieux?
Sans doute, au même titre que certaines atmosphères, que la géographie, que la lumière de notre enfance. Ça pose certainement un attrait, ou en tout cas une direction, qui n'est pas une fatalité non plus, parce que la vie est généreuse et on peut évidemment découvrir d'autres sons, d'autres énergies.
Mais vous êtes guidé, vous, par les sons de votre enfance? Il y a des endroits que vous privilégiez.
Il y a des choses indélébiles, évidemment.
Ouais. Lesquelles, par exemple?
D'abord, moi, j'ai eu la grande chance d'être élevée en deux langues, l'arabe et le français.
Oui.
Et ça, évidemment, ça marque à jamais, en bien. C'est-à-dire, c'est une grande richesse.
D'avoir
déjà
les deux sonorités.
Oui, les deux sonorités, mais aussi au-delà des sonorités de la langue, c'est ce que la langue charrie de culture, de dicton, de comptine, de rapport au monde, d'une manière générale. Ça, c'est, oui, bien sûr, ça, c'était important.
Bon, il y a de quoi philosopher avec les sons, ça tombe bien, on va philosopher avec Tahar Benjelloun tout à l'heure. Merci beaucoup Zeynab et Rached. Le grand livre des petits bruits est paru chez Casterman, vous êtes une fidèle de cette émission, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, qui se déroule en ce moment en France. À bientôt Zeynab.
À bientôt, merci beaucoup.
À suivre les coups de gueule et les coups de cœur des libraires et de la philo donc avec Tahar Benjelloun. Ce sera après le tout nouveau titre de Jean-Louis Murat dans la librairie francophone.
Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref puis vint encore plus vite. La flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel est messager d'amour, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs, peut-on effacer la plus avilissante des misères. Je suis devenu un coucher de soleil, je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère, avec les oiseaux je vis le chant subtil. Ici mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mais ça s'ensemble. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu toujours à comprendre? Je suis devenu un coucher de soleil, je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère, avec les oiseaux je vis le chant subtil. Ici mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mi sensio. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu toujours à comprendre?
C'était Jean-Louis Murat avec l'Arc-en-Ciel dans la librairie francophone. Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. On commence avec un coup de gueule tout de suite, Déborah Damblon en Belgique.
Eh ben oui, Emmanuel. Voilà, un coup de gueule pour continuer sur votre lancée.
Ah,
alors
carrément.
Attention, ne me faisons pas dire non, ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un coup de gueule contre le Goncourt de Hervé Le Tellier.
Ah.
Je l'ai lu, j'ai apprécié. Mais par contre, c'est un coup de gueule, pardon Monsieur Benjelloun, contre le manque de courage, d'originalité, d'engagement, ou quel que soit le mot exact, du jury qui aurait pu aller sur le chemin du courage en couronnant les impatientes de Djali Amadou Amal et qui sont restées jusqu'au cou, jusqu'aux oreilles dans la convention. Alors moi j'ai envie de dire chapeau à la grande dame qui, elle, a eu l'élégance de les remercier pour la sélection, et puis chapeau aux lycéens qui, eux, n'ont pas hésité à leur donner leur propre Goncourt.
Bon, je rappelle quand même que le jury du prix Goncourt, c'est 10 personnes. Hein. Donc, il n'y a pas que Tahar Benjelloun qui est en plateau avec nous, qui décide. Et d'autant que c'est lui qui a apporté, qui a révélé Djali Amadou Amal. Pardon ?
Comme il est là et que je l'aime beaucoup, je lui dis pardon.
D'accord.
Non, mais on a des sensibilités différentes. Et puis, quand j'ai découvert ce livre, j'ai demandé à tous mes autres camarades de le lire.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il a figuré sur notre liste. Et c'est pour ça que les lycéens l'ont sélectionné. S'il n'avait pas figuré dans cette liste, les lycéens n'auraient pas donné le Goncourt.
Bon, écoutez, le Goncourt est libre de ses choix. En tout cas, on en discute ouvertement, mais ils sont libres. C'est ça aussi, hein, la liberté culturelle et le débat culturel. Merci beaucoup, Déborah. Dominique Bresson en Suisse, un coup de cœur dans le rayon des essais.
Oui, alors c'est sur La naissance d'un père de Marie-Claire Zog. C'est, ce livre, ça tombe vraiment à pic parce que devenir père au 21e siècle, ça peut être un réel challenge et que d'aucuns peuvent se sentir à juste titre perdus. Alors donc, ce n'est pas du tout un énième livre de conseils sur comment changer les couches entre deux dossiers urgents. C'est une approche beaucoup plus intéressante et qui pose les problèmes réels de la parentalité dans notre société. Mmh. Pour moi, c'est à lire par les futurs jeunes parents et tant qu'à faire, aussi par certains boomers, hommes et femmes, pour savoir ce qu'ils ont loupé.
Je connais des papas qui changent très bien les couches, hein, sans penser au boulot. La naissance d'un père de Marie-Claire Zog aux éditions Slatkin. Merci Dominique. Un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, alors je vous raconte une anecdote en même temps. Assez récemment, j'ai un client qui me demande de lui faire des suggestions de lecture. Alors je me lance, mais après 5 ou 6 titres, il m'arrête en me disant « C'est bien, mais là, vous me suggérez juste des femmes. » Alors, Emmanuel, j'avoue que j'ai figé, parce que je me suis rendu compte que pendant que je pensais lui proposer des œuvres au style et au sujet complètement différents, que je lui parlais sans m'arrêter à une notion de genre de bonne lecture, lui s'attardait au fait que je ne lui proposais que des femmes. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, on a fait du chemin, mais visiblement, il y en a encore à faire. Et que si je ne l'avais pas déjà fait, j'en appelle, j'exhorte ici à ce qui me semble être les principes absolus de tout adepte de lecture qui se respecte, c'est-à-dire l'absence de préjugés et la curiosité.
Calmez-vous, calmez-vous. Tout est énervé, Josiane. Et en même temps, pourquoi vous lui proposez que des femmes? Là aussi, la parité, les hommes, alors qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben oui, mais ça marche dans les deux sens, hein.
Oh là là.
Bon allez, Thomas Hausser, un homme, tiens, un coup de cœur en France.
Et oui, alors Emmanuel, moi c'est un coup de cœur. Alors dans le rayon de la jeunesse, c'est pour un livre qui s'appelle « Une année en poésie ». C'est un très beau recueil de poèmes avec une sélection d'Emmanuel Leroyer et des illustrations de Fran Preston-Ganon. Alors c'est deux femmes, hein, je le dis au passage. Alors pour moi, c'est vraiment le grand recueil de poésie de l'année. D'ailleurs, il y a un poème pour chaque jour de l'année et ça s'enchaîne mois après mois. C'est beau, c'est pétillant. Des fois, c'est un petit peu profond. Des fois, c'est léger. En fait, ça dépend sur quel poème on tombe. Hein. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Et franchement, pour moi qui le parcours dès que j'ai deux minutes, c'est lisible pour les petits, mais aussi pour les grands.
D'accord.
Donc, je pense que moi, c'est le cadeau à demander au Père Noël.
Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça tombe bien, on a un auteur de Gallimard Jeunesse qui arrive tout de suite. Allons-y.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Tahar Benjelloun publie un livre très complet, ludique et intelligent qui s'adresse aux 10-15 ans mais que tout le monde peut lire sans problème. La philo expliquée aux enfants incite à prendre la mesure de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend, de réfléchir, de ne pas être dupe et de douter. Le risque, Tahar, c'est l'inverse. À force de douter, on peut basculer vers la paranoïa.
Non mais il faut apprendre aux enfants à ne pas tout accepter. Et leur apprendre le doute mesuré, évidemment. Évidemment, parce que un enfant, il est disponible, il peut tout croire. Tout dépend comment on s'adresse à lui. Et en ce moment, avec les réseaux sociaux qui publient tellement de fausses nouvelles, il faut être très vigilant, il faut apprendre aux enfants à ne pas tout avaler, il faut toujours remettre en question ce qu'on vous dit.
Alors, c'est ce que vous expliquez, vous citez aussi le philosophe Alain, qui disait « penser, c'est dire non ». Et vous, vous dites non aux climato-sceptiques, par exemple, non aux abus qui détruisent la planète. C'est le grand message de votre livre, même si ce n'est pas vraiment une valeur philosophique, ça s'en rapproche.
Oui, non, mais de toute façon, c'est la ligne rouge du livre. D'ailleurs, le dernier concept que j'ai développé, c'est l'eau, qui n'est pas un concept philosophique, mais qui est vital pour nous. Et c'est d'apprendre aux enfants à respecter l'environnement et dès l'enfance, leur apprendre à avoir des bons gestes pour que la planète ne soit plus une poubelle comme leurs parents ou leurs grands-parents ont fait jusqu'à présent.
Respecter la planète, respecter les autres aussi. Le respect, selon vous, c'est la parole donnée et tenue. Vous citez l'exemple du meilleur ami qui dévoile un secret qu'on lui a confié. Dans ce cas, et c'est un peu dur, je trouve, vous écrivez « Par conséquent, non seulement tu ne lui diras plus rien, mais tu cesseras de le fréquenter et il ne sera plus ton ami ». C'est un peu radical, non?
C'est important, quand il y a, surtout chez les enfants, un secret pour eux, c'est très très important.
D'accord,
mais
bon.
Le dévoiler, c'est le trahir. S'il dévoile un secret, il fera d'autres choses qui ne sont pas bien. C'est dans ce sens-là qu'il faut être assez, peut-être radical, mais parfois, ça dépend des gens. Il y en a qui pardonnent, d'autres qui ne pardonnent pas.
On peut faire des erreurs aussi.
Oui, c'est possible. Mais il ne faut pas révéler un secret confidentiel et tout ça, non.
Vous ne l'avez jamais fait, vous? Vous n'avez jamais révélé un secret?
Non, je ne pense pas, non.
Ah ouais. Même non, malgré vous, vous savez que ça arrive, ça.
Ah, ça peut arriver, mais bon, je n'ai pas fait exprès, non.
L'amitié est une forme d'amour, dites-vous, Tahar Benjelloun. L'amitié est plus complexe qu'on ne le croit. Vous expliquez que parfois, on peut facilement se tromper et croire en une amitié qui n'existe pas vraiment, et ça peut durer des années comme ça.
Ah oui, parfois, ce sont des épreuves de la vie qui vont révéler, confirmer ou infirmer. C'est quand on arrive à un certain moment où on a besoin de l'ami sur lequel on comptait et qu'il n'est pas là. Alors on se rend compte que ce n'est pas un vrai ami.
Il y a dans votre livre aussi la notion de solitude. Il y a des solitudes choisies, mais aussi des solitudes subies. La solitude, c'est aussi le manque d'amour. Vous expliquez que ceux qui souffrent du manque d'amour de leurs parents ont du mal à se construire. Pourquoi ?
Ben, c'est un problème très grave parce qu'on voit de plus en plus d'enfants qui traînent avec eux des traumatismes et qui en font des adultes handicapés ou des adultes à problème. Et c'est pour cela que le livre s'adresse aussi aux parents. Parce que ce que je dis aux parents, c'est qu'il faut faire confiance à vos enfants. Il faut pas les sous-estimer. Partez du principe qu'ils sont intelligents, qu'ils sont bien, qu'ils sont bienveillants. Il faut leur faire des compliments. Il faut les encourager. Mmh. Mais si tout d'un coup vous les ignorez ou vous les punissez ou vous les jetez dans la solitude, eh bien vous en ferez des adultes à problème.
Le passé vécu continue-t-il à construire ou à déconstruire les adultes alors ?
Oh ben, les adultes devraient plutôt s'occuper des présents et faire de leur mieux pour communiquer le mieux possible avec évidemment leur entourage et leurs
D'accord,
enfants.
D'accord, mais s'ils ont vécu, comme vous le dites, oui, la souffrance de la solitude par rapport aux parents, est-ce que ça continue à déconstruire la personnalité ?
Oui, ça peut évidemment faire des dégâts. C'est pour cela que, bon, il faut parfois réparer le passé. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons. Psychothérapie, par le langage, par l'art, par plein d'occupations.
Tahar Benjelloun, il y a deux libraires qui ont philosophé grâce à vous, le Canada et la Belgique. On va commencer par le Canada, ça vous va ?
Très bien.
Allez, Josiane Letourneau, c'est à vous.
Alors Tahar Benjelloun, ce que vous nous offrez est aussi pertinent pour les jeunes que pour leurs parents, je trouve, voire même les autres adultes. Et chaque concept que vous expliquez mène naturellement à l'autre et ça constitue un fil de lecture, de réflexion qui est bien loin d'être ténu. Vous démontrez également très habilement ce qu'on appelle communément les deux côtés de la médaille. Bref, c'est un livre brillant qui nourrit et une lecture qui, drôlement peut-être, m'a réconfortée.
La philo expliquée aux enfants.
Merci, merci Gallimard, beaucoup. Merci beaucoup.
Jeunesse. Déborah Damblon, êtes-vous d'accord avec votre collègue du côté de la Belgique ?
Oui, je suis plus ou moins d'accord. Parce que, au départ, bon, ben voilà, un livre pour parler de philo aux enfants, faut être honnête, il y en a déjà une fameuse série. Mais bon, ici, c'est le vôtre, monsieur Benjelloun, et comme c'est vous, pour moi, c'est déjà un très bon point. D'ailleurs, ce qui est aussi un très bon point, c'est que je trouve que vous vous impliquez personnellement dans les exemples, dans les récits. Ça, c'est touchant, ça fait toute la différence, et ça rend très humain. Après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait certaines questions en fin de chapitre, qui sont parfois un peu plus rhétoriques que poussant vraiment à la réflexion. Et puis, j'ai été un tout petit peu gênée parfois quand ces fameuses questions semblent indiquer un jugement sur les parents. Mais bref, ça, ce sont des détails. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une très, très belle boîte à outils qui pousse à oser penser, et c'est important.
Merci, voilà, merci beaucoup. Benjelloun. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est, moi, j'ai enseigné longtemps, 3 ans, enseigné la philo. J'ai préparé la grecque, mais malheureusement, pendant que je la préparais, j'ai été arrêté et mis en prison, donc j'ai pas pu continuer. Mais après, quand je vais dans les écoles expliquer le racisme ou l'islam ou d'autres concepts, je fais un peu du philo parce que j'aurais vu certains concepts importants comme le droit, la justice, le racisme, le respect, la morale, la solitude. J'explique tout ça aux enfants presque tous les jours à chaque fois que je vais dans les écoles.
La prison, je le rappelle, vous l'avez vécu par position politique. Hein,
oui, 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 oui. Voilà. C'est pas, j'ai tué personne, j'ai pas cambriolé la banque du Maroc.
Quand même. Et vous l'avez expliqué, vous l'avez raconté dans la punition chez Gallimard. Fait, oui. Vous abordez la question délicate du suicide et de l'angoisse chez les jeunes, celle de la justice aussi, de la peur, de l'antisémitisme, de l'islamophobie ou encore de la corruption. Et selon vous, Tahar Benjelloun, l'éducation serait une réponse à la lutte contre la corruption, qui entraîne beaucoup de choses, la corruption, du coup.
De toute façon, la base de tout, c'est la pédagogie, c'est l'éducation. Un enfant, il arrive au monde, il attend. Il attend à ce qu'on lui montre le chemin, à ce qu'on lui apprenne les choses, à nommer les choses, à savoir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, à savoir pourquoi la religion, pourquoi la mort, pourquoi la vie. On doit lui parler, on doit évidemment, il y a l'école bien sûr, mais aussi les parents. Alors évidemment, quand je parle de la corruption c'est un mal pratiquement universel, et moi j'aime beaucoup, je donne dans le livre, j'aime beaucoup le mot arabe qui dit « rishwa », ça veut dire que c'est un bois pourri. On ne peut rien bâtir sur un bois qui est pourri. Donc tant qu'il y a la corruption, qu'elle soit matérielle, financière ou morale, on ne peut pas vivre ensemble dans de bonnes conditions.
Donc l'éducation, cela conduit à l'intelligence. Vous dites que l'intelligence, ça se cultive. Pourtant, certains pensent que l'intelligence est innée ou héréditaire. Quelle est votre réponse, vous ?
Non, l'intelligence se fabrique. L'intelligence, évidemment, il y a une disposition chez l'enfant. Tous les enfants du monde arrivent avec une bonne disposition. Tout dépend de ce qu'on met dans cette boîte. tout dépend comment on leur parle, tout dépend ce qu'on va leur raconter et comment on les traite. On peut effectivement éveiller et multiplier une intelligence, l'améliorer, et on peut aussi l'étouffer.
Et on peut générer du vice. Là aussi, il y a cette notion de vice que vous expliquez très bien. Le vice est une sorte de trahison du bien, écrivez-vous, de l'honnêteté et de la bonne foi, donc de la morale. Tara Benjelloun, n'a-t-on pas tous un vice caché ?
Personne n'est parfait, comme je disais.
Comme les bagnoles.
Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des vices. Ce qu'il faut, c'est le savoir et essayer de ne pas les vivre et ne pas faire le mal aux autres. L'important, c'est de se respecter soi-même et respecter les autres.
Évidemment. Ça, vous enfoncez des portes ouvertes, mais...
Des portes ouvertes, mais qu'il faut dire parfois, qu'il faut redire, parce que la notion de respect, parfois, on l'oublie.
Ouais.
On l'oublie. Ouais. Regardez ce qui se passe actuellement entre la police et la population dans
en
les
France,
manifestations.
Ouais.
Oui, en France, il y a un manque de respect de tout. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le citoyen, on ne respecte pas l'individu, on le tabasse, on se croit tout permis. Non, le respect, c'est une notion essentielle, ce n'est pas une porte ouverte. C'est très important de le rappeler aux enfants dès le départ.
D'accord. Donc le vice, il faut l'écarter, si on vous suit.
Il faut l'écarter autant que possible. Mais
faut l'identifier déjà.
Oui,
c'est pas facile.
Oui,
certains n'y arrivent pas.
Je donne un vice qui est très courant chez les enfants, c'est le vol, par exemple.
Ouais.
Voler.
Chaparder.
Chaparder, oui. Ouais. Mais parfois ça peut se développer, etc.
Ouais, ouais.
Donc il faut très vite sévir.
Ouais. Bon, en ces temps troublés avec ces fêtes qui approchent, terminons avec le mot légèreté en fin d'ouvrage. Vous dites qu'il faudrait redevenir léger, ne pas s'encombrer de choses inutiles, réduire sa consommation de vêtements et d'objets aussi.
Ah ouais, la consommation, c'est terrible, ça. D'ailleurs, avec le confinement, on se rend compte que tout ce qu'on achète, il est là. C'est effrayant. Et je vais citer Nietzsche dans Zarathoustra, vers la fin du premier chapitre. Il dit « À présent, je suis léger. À présent, je vole. À présent, Dieu danse à travers moi. » C'est la légèreté, c'est ça. Mmh. C'est la danse et cet esprit qui fait que nous sommes au-dessus des difficultés.
Bon, merci beaucoup Tahar Benjelloun.
Merci.
La philo expliquée aux enfants est parue chez Gallimard Jeunesse. Vous l'avez entendu, un livre qui a séduit nos libraires. Dans un instant, notre séquence 15 ans et l'hommage à Anne Sylvestre disparue cette semaine. Vous entendrez le témoignage de son ami Philippe Delerme. Avant cela, voici le nouveau titre de Gaël Faye, extrait de son nouvel album dans la librairie francophone.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Lundi méchant, comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventéré et chauffer, chauffer, bah t'entends les pulsations des tympans, hein. Chanter, chanter, c'est qu'encore écouter, goûter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
C'était Gaël Faye avec donc Lundi méchant. Gaël Faye que vous pouvez retrouver dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde ce dimanche à 19h.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
pour les 15 ans de l'émission, nous vous proposons des moments de radio qui ont marqué l'histoire de ce programme. Aujourd'hui, notre hommage à Anne Sylvestre, chanteuse culte qui aura marqué plusieurs générations avec 18 albums de ses fabulettes et 20 albums pour les adultes. Anne Sylvestre aura fait un pont entre les générations tout au long de sa vie. Ouverte aux autres artistes, elle s'est entourée de Bobby Lapointe, Aldebert, Gilles Vigneault ou encore les Ogres de Barbac, avec qui elle était venue sur notre plateau en 2013 pour Pitocha et la tisane de couleur. Voici un florilège en musique.
Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âme, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la.
Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, moi j'aurai bien du chagrin et ton âne n'aura rien.
Bonjour Anne Sylvestre.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone, on est très heureux
merci,
de vous recevoir.
Merci.
Vous avez fait rêver des générations d'enfants et d'adultes avec vos chansons et vos textes, Pitocha et la tisane de couleur. C'est un conte engagé comme vous, comme vos chansons qui n'ont jamais été neutres, Anne.
Ben, je pense que si on fait des chansons, c'est pas pour rien, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose à dire dedans. Et puis, pour ce qui s'adresse aux enfants, je trouve que c'est très très important justement de leur donner tout de suite des notions sur les différences.
Ça leur donne une conscience, vous pensez,
oui. Oh, ben oui, ouais. Oui. Quand ils sont élevés dedans...
On a la conscience politique, déjà.
Oui, moi, je suis certaine que ça les... Oui, oui, ça les touche déjà. Et puis, je pense que naturellement, ils sont très tolérants. Ensuite, on leur apprend l'intolérance. Et ça, peut-être, des chansons comme celle-ci peuvent les empêcher de tomber plus bas.
En 1973, Anne Sylvestre, vous chantiez « Non, tu n'as pas de nom », une chanson sur l'avortement. Mmh. En 1986, vous dénoncez la misère et les sans-abri dans « Pas difficile ». Et en 2007, vous chantez « Gay, marions-nous ».
J'ai et toujours été un
fois,
peu en avance.
Voilà, vous êtes carrément en avance, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois, avant même que cela génère des mouvements citoyens, positifs, ou négatif d'ailleurs, ça dépend des pays, il se passe quelque chose avec vous. Vous avez toujours voulu être près de ceux qui sont favorables à l'extension des libertés?
Certainement, ça doit, je dois être comme ça. Oui, oui, ça me vient un peu naturellement, bien sûr.
Vous forcez pas?
Ah ben non.
Vous ne vous dites pas à un moment, il faut que j'écrive un texte engagé pour faire bouger les choses?
Vous croyez que ça sert à quelque chose, une chanson?
Parfois, oui, non? Ah, vous avez perdu ces illusions, vous?
Non, 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 je veux bien y croire. Encore, un petit peu.
Ce n'est pas trop compliqué pour les enfants, Anne Sylvestre, d'aborder comme ça la mondialisation, la tolérance, la vie en communauté. Vous pensez qu'il en reste toujours quelque chose?
Mais oui, c'est, de toute façon, on leur présente ça à leur échelle. Et je me suis aperçue que c'était pas... La peine, on n'avait pas besoin d'expliquer les chansons aux enfants, ils comprennent. Rêver, rêver, il en restera toujours quelque chose. Je pense que... Je sais pas, moi j'avais fait une chanson justement de Noël qui s'appelait « Noël n'est pas au magasin » pour montrer qu'on n'était pas obligé d'acheter les cadeaux, qu'on pouvait les fabriquer soi-même. Je pense qu'il y a des petites choses qui restent.
J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Anne Sylvestre a disparu à l'âge de 86 ans. Bonjour Philippe Delerme. Merci beaucoup d'être avec nous. L'enseignant que vous étiez a enseigné les textes d'Anne Sylvestre avant de la connaître même. Il y avait plein de thèmes à explorer chez elle.
Oui, c'est ce que je voudrais dire. C'est bon, j'ai une grande tristesse d'abord et puis après j'ai un petit peu de colère aussi en écoutant tout ce que j'entends, tout ce que je dis à propos d'Anne Sylvestre depuis qu'elle est morte. C'est-à-dire qu'on est un petit peu réduite quand même à deux axes. D'une part, la chanteuse pour enfants et d'autre part, le féminisme. Elle était bien davantage que ça, elle était surtout un immense écrivain. Elle a écrit pendant plus de 60 ans une carrière extraordinaire qui fait d'elle la plus grande, je veux dire le plus grand chanteur tout sexe confondu. Et puis la qualité de ces textes, la qualité poétique, la qualité d'écriture et aussi la modernité. Mmh. J'étais content de vous entendre parler de la modernité, des thèmes. Et ben, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel et singulier. Moi, c'est vrai que je l'ai pratiqué, cette modernité et cette écriture, au moins une fois par semaine, dans mes classes où j'étudiais toujours une heure par semaine un auteur de chansons. J'apportais ma guitare en cours.
Ah, oui.
Il se trouve que les textes d'Anne, c'était vraiment ceux qui résistaient le plus à l'explication de texte. Moi, j'avais des enfants de 11 à 16 ans.
Oui.
J'étais très, très touché.
Vous avez transmis cette passion à Vincent Delerme, paraît-il, quand il était enfant. C'est une artiste qui a accompagné votre vie de famille. Comment vous l'avez connue personnellement ensuite?
C'est assez magique, parce que vous imaginez bien que Anne Sylvestre, c'est pas quelqu'un dont on peut être groupie, hein. C'est pas une chanteuse à groupie, mais c'était simplement quelqu'un qui était, au début de l'histoire, pour moi, la première chanson que j'ai chantée avec une guitare, c'était une chanson d'Anne Sylvestre. Je peux dire que la première guitare que j'ai achetée, c'était pour me mettre à chanter Lazare et Cécile, et qui est la première chanson que j'ai apprise. C'est une histoire aussi un peu personnelle, puisque il se trouve que j'ai rencontré la femme de ma vie en lui parlant d'Anne Sylvestre. La première discussion, c'était on avait évoqué Anne Sylvestre.
D'accord.
Et surtout, pour lui dire Déclarer ma flamme, j'ai utilisé les vers d'une chanson d'Anne Sylvestre.
Ah oui, d'accord.
Il se trouve qu'après, bien plus tard, on a rencontré son pianiste Philippe Davenay, et on a rencontré aussi Serge Hureau et Olivier Huchenet qui s'occupent de la chanson. Elle est devenue proche, elle est devenue une amie, et j'ai pu avoir le grand honneur de lui faire écrire, je dirais, bon, on a dit son premier livre, un livre qu'elle a publié il y a quelques années sur les mots, parce qu'elle avait un amour des mots qui était extraordinaire. Je dis en souriant son premier livre, parce que toute sa vie n'est qu'un livre immense, et je crois qu'il n'y a pas d'exemple, en fait. J'entendais évoquer parmi les chanteurs Gilles Vigneault. Je crois que c'est peut-être le seul qui a une longueur de carrière et une qualité d'écriture comparable, parce que c'est exceptionnel.
Ouais. D'ailleurs, puisque vous parlez de Gilles Vigneault, elle était très appréciée au Canada. On va donner la parole à Josiane Letourneau, notre libraire québécoise. Josiane, vous êtes très émue aussi parce que vous étiez fan, pas groupie, comme dit Philippe Delerme, mais fan d'Anne Sylvestre.
Ah, j'étais complètement fan d'Anne Sylvestre. Et la réflexion que je me suis faite, c'est intéressant parce qu'en lisant la presse qu'en France, le succès des contes musicaux d'Anne Sylvestre avait fait un peu d'ombre à ses autres œuvres, incluant les plus féministes. J'ai réalisé qu'ici, la majorité des réactions et des partages que j'avais vus, surtout dans les médias sociaux, étaient à l'opposé, davantage reliés à des pièces comme Une sorcière comme les autres, chanson d'une portée et d'une poésie sublime, qui a en fait résonné en beaucoup de femmes, surtout du milieu littéraire québécois, de toutes les générations. Elles ont été très, très nombreuses à partager l'œuvre musicale d'Anne Sylvestre en témoignant de l'impact que celle-ci avait eu sur elle.
Voilà, vous pouvez lire aussi Anne Sylvestre grâce à Philippe Delerme, hein, qui lui avait fait publier Coquelicot et autres mots que j'aime. C'est ça, Philippe ?
Oui, tout à fait. C'était vraiment un grand bonheur. Et je crois qu'elle était heureuse, d'ailleurs. Elle aimait bien lire des textes comme ça. À la fin de sa vie, c'est une chose qui lui a fait plaisir. Oui. Et pour moi, c'était évidemment un immense honneur. Et puis aujourd'hui, c'est une immense tristesse et je me rends compte qu'avoir été accompagné par quelqu'un comme elle toute sa vie, c'était une chance magnifique. Et aujourd'hui, c'est vraiment une profonde douleur aussi.
Bon, merci beaucoup en tout cas Philippe Delerme d'avoir choisi la librairie francophone pour ce témoignage. Anne Sylvestre, qui était bien plus qu'une conteuse pour les enfants, vous l'avez dit Philippe, concernée par les problèmes de société et très attachée à la tolérance. À bientôt Philippe, merci encore.
À bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, 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 zoom.
Eh oui, c'est la jeunesse aujourd'hui qui est à l'honneur dans la librairie francophone. Bonjour Karl Norak.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être à distance avec nous. Vous êtes aussi invité du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Vous êtes un grand poète belge, mais aussi un auteur pour la jeunesse, avec des livres illustrés par de grands noms comme la Belge Kitty Krauter ou encore le Québécois Stéphane Poulin. Vous êtes belge, mais vous avez vécu au Québec. Vous en avez été inspiré parce que je trouve que votre univers, il est souvent très empreint de cet imaginaire québécois.
Ah ben c'est la première fois qu'on me dit ça, mais je suis très très content. C'est vrai que j'ai passé quelques mois au Québec, je dis toujours que c'est mon pays de cœur. J'ai trouvé des forêts plus grandes que celles où j'ai vécu ma jeunesse. Je viens d'écrire un livre à propos d'Andersen, mais c'est vraiment inspiré par la forêt, parce que quand un auteur vous dit qu'on peut rentrer à l'intérieur des arbres et que vous êtes un enfant dans une forêt, et là c'est vrai qu'au Québec j'ai découvert à la fois des forêts beaucoup plus profondes, des paysages beaucoup plus impressionnants qu'en Belgique, mais j'ai vécu en haut d'une tour. Alors moi qui venais de la campagne, j'étais aussi dans une ville américaine.
Et, oui.
Et d'ailleurs, j'étais parti pour écrire un livre qui devait s'intituler « Éloge de la patience », mais ce livre a dû patienter parce que j'ai écrit à l'époque « Le carnet de Montréal », c'est-à-dire que j'ai arpenté tout Montréal rue par rue et finalement ce livre-là est né à la place d'un autre.
Voilà, plus de 80 livres, hein, tout genre confondu. Karl Norak, si vous ne le connaissez pas, il faut le lire. Vous avez été primé plusieurs fois en Belgique. En janvier 2020, vous avez même été proclamé poète national. Vous avez une vraie responsabilité. Et vous dites, oui, que votre fantasme depuis l'adolescence, c'est d'être un écrivain voyageur.
Oui, alors c'est venu un peu par obligation. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, je montre ça aux enfants, hein. Je fais quelqu'un qui attend une idée, alors il regarde dans sa poche, il regarde dans l'air si elle va tomber. Mon père, qui est écrivain, qui s'appelle Pierre Coran, lui, il écrit dans un silence matiné de chants d'oiseaux. Et moi, j'ai besoin du bruit du monde, de l'adrénaline des autres, j'ai besoin d'être en route. Quand je suis dans un train, j'ai l'impression que la ligne du paysage va devenir la ligne de l'écriture. Donc j'écris dans les cafés, j'écris en voyage, et j'ai vu que c'était sur les chemins que les mots allaient venir à ma rencontre.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous adaptez Andersen avec Poussette, librement inspirée du conte d'Andersen. Poussette, minuscule fillette, qui est née dans une fleur. Elle va vivre avec la nature et avec les propositions de mariage des animaux et des insectes. Mais contrairement au conte d'Andersen, petite Poussette, hein, c'est le titre d'Andersen, elle va garder, elle, sa liberté jusqu'au bout. Pas de prince charmant, quoi.
Oui, alors il faut quand même dire qu'Andersen était peut-être le premier écrivain à parler d'héroïne. Et donc, il y a plus de filles que de garçons dans ses contes. Donc ça, c'était important. Par contre, c'est vrai que j'ai voulu m'emparer de Poussette parce qu'il y a des personnages comme ça qui finalement sont dans notre imaginaire collectif. Edgar Rice Burroughs, alors non, pas du tout. Tarzan, ah si, on connaît. Hein, donc il y a parfois des personnages qui dépassent un peu leur auteur. Et là, j'ai voulu m'emparer de Poussette. Parce que je trouve que dans cette idée, c'est un conte absolument merveilleux, mais elle est ballottée de personnage en personnage. Elle se fait kidnapper par un hanneton, il y a un crapaud qui veut l'épouser,
oui,
ensuite,
oui,
il y a une taupe qui veut l'épouser.
Oui.
Et en fait, après, on la met devant un prince, tout joli, elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, il lui dit « Tu veux m'épouser ?» Elle dit « Oui ». Non, dans mon conte, elle pose la différence. Elle veut connaître l'autre. C'est une jeune fille indépendante d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Cette dimension-là, je pense que c'était nécessaire de l'apporter aussi à Poussette.
Elle veut rester libre, comme elle le dit, libre comme l'air, et pas riche, ça ne l'intéresse pas. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Karl Norak. Avec la France et la Suisse, on commence par qui?
Ah, ben, où vous voulez, hein. Moi, j'aime bien voyager, donc.
Oui, c'est vrai. Allez, je vous fais voyager en France avec Thomas Hausser.
Ah oui, alors moi, Emmanuel, j'ai trouvé que c'était un album vraiment superbe. À la fois, c'est un bel hommage à l'œuvre d'Andersen, et en même temps, comme on vient de dire, il y a une écriture et puis il y a une résonance très contemporaine. Voilà un beau texte où l'héroïne sait dire non, et plus que ça, faire entendre sa voix, et puis aussi faire des choix à assumer. Hein. En plus, les dessins sont vraiment élégants et beaux. Alors nous, vraiment, on va en recommander plein, et on va en vendre plein pour Noël.
Parfait, ça va lui faire plaisir. Allons-y pour la Suisse, Dominique Bressoux.
Oui, alors moi j'ai trouvé que les illustrations étaient magnifiques. Le texte adopte un ton très naturel et actuel et j'imagine que les enfants et les parents vont l'adorer. Mais de mon point de vue, en fait, comme vous l'avez dit, c'est surtout enfin un conte qui ne se termine pas par « Elle rencontra le prince et l'épousa », indiquant sournoisement depuis des siècles la voie obligatoire à suivre pour toutes les petites filles pour exister aux yeux de la société. Alors moi, j'ai juste un souhait, que ce soit le premier d'une longue série de contes revisités destinés aux enfants du XXIe siècle.
Voilà, Karl Norak, l'avis de nos libraires, ça vous va, je suppose?
Ah ben c'est un avis qui me fait très plaisir, parce que c'est exactement
le
but de ce livre, de ce partage. Hein. On prend toujours le livre un peu comme un bout de pain qu'on rompt comme autrefois pour partager avec une idée. Effectivement, Claire de Gastold, hein, qui il faut dire le nom de l'illustratrice, qui est formidable, et les éditions Didier Jeunesse, on fait vraiment un beau livre qui s'ouvre un peu aussi comme une fleur, comme la petite fille qui va en sortir.
Ouais, une très belle couverture. Vous avez un point commun avec Tahar Ben Jelloun, puisque lui, il a repris les contes de Perrault, Tahar, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Je me souviens, vous aviez parlé de cela dans l'émission.
J'ai repris, oui.
Alors vous rendez hommage à Andersen, Karl Norak. Pourquoi vous lui rendez hommage? Qu'est-ce qu'il a transmis avec ses contes, Andersen? Qu'est-ce qu'il nous a légué?
Bah, Andersen, c'est un homme monde, hein. C'était quelqu'un qui était vraiment à l'avant sur son temps à travers ses contes, et c'est pour ça qu'il garde aujourd'hui une parfaite intemporalité. Alors évidemment, moi j'ai une histoire particulière, je suis un enfant qui a vécu dans une cité populaire en pleine ville avec la bande d'amis, et puis qui est parti pour une solitude heureuse, je dirais, en tant que fils unique dans une forêt avec ses parents, avec 6 kilomètres de forêt, mais pas un autre enfant, et donc je suis rentré dans l'amitié des arbres. Et quand vous lisez Andersen, par exemple, donc son premier conte, Le Briquet, qui vous donne le pouvoir d'entrer dans les secrets de la nature, mais même physiquement à travers l'écorce, pour rentrer dans un escalier, voir des chats fabuleux et même trouver des trésors, l'enfant que vous êtes, il y croit. Hein, il a envie de se glisser dans la première faille d'un saule et de trouver le secret de ses contes. Donc pour moi, ces contes, c'était bien plus encore qu'une histoire. C'était une sorte de guide de mon premier voyage initiatique personnel.
Ouais, premier voyage, et vous avez continué comme ça. Et encore aujourd'hui, à travers la poésie, hein, vous parsemez toute votre œuvre de poésie. C'est absolument sublime. Merci beaucoup, Karl Norak.
Merci à vous. Merci de l'invitation.
Bientôt. Merci. Poussette, illustré par Claire de Gastold et paru aux éditions Didier Jeunesse. Et vous êtes invité du Salon du Livre de Montreuil en ce moment. Dans cette nouvelle formule chaque semaine, vous le savez, nous donnons la parole aux bibliothécaires. Quelque part dans la francophonie, aujourd'hui, c'est la Suisse qui est à l'honneur. On vous emmène dans un joyau du lac Léman, direction Montreux. Bonjour Delphine Bernard.
Bonjour.
Vous êtes bibliothécaire à la bibliothèque de Montreux-Vétot. Que voyez-vous par la fenêtre, tiens, en ce moment, depuis votre bibliothèque?
Alors notre bibliothèque, elle est à quelques pas du lac Léman. On peut quasi l'entendre si on se concentre bien. Mais c'est une autre musique que j'aimerais relayer aujourd'hui.
Alors oui, vous avez choisi un grand classique de la littérature, puisque c'est le principe de cette séquence, et effectivement, une sacrée musique. Allez-y.
Oui, c'est celle d'une voix très lointaine, qui nous vient de l'Antiquité classique. C'est la voix de Salammbô, qui Gustave Flaubert donne vie en 1862, dans son roman éponyme. En ouverture du roman, lorsqu'on lit, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. On reçoit là d'emblée une envoûtante invitation, celle d'un monde fastueux, dans lequel ce sacré Amilcar se fait d'ailleurs bien discret. Mais sa fille, Salammbô, elle est là, elle est bien là, sublime. Donc si au départ, calmer les ardeurs de tous ces mercenaires en cuirassés qui s'échauffent et se révoltent dans son jardin ne semble pas beaucoup l'impressionner, ça va vite se corser. En toile de fond, c'est une histoire d'homme, surtout de révolte, de guerre, de violence, de pouvoir. Un genre de Game of Thrones antique.
Ah oui, ça, j'avais pas pensé à Game of Thrones, ça pourrait.
Il y a un parallèle, mais l'essentiel est d'ailleurs, je crois, il est dans la délicatesse des descriptions, dans ce monde disparu, fantasmé par Flaubert, dans son chatoiement, et surtout dans l'évocation de la convoitise et du désir.
Bon. Merci Delphine Bernard. Salammbô de Flaubert, livre de 1862, est paru en poche au Livre de Poche. Merci à la bibliothèque de Montreux-Vétot en Suisse, où on écoute aussi, bien sûr, la librairie francophone. À bientôt Delphine.
Au revoir, oui, à très bientôt, j'espère, oui.
Au revoir. On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Deux Frères, numéro 1 en ce moment au Québec.
Il y a quelque chose à l'horizon, comme une autre 16 ans, ce genre de choses qui nous apportent la paix dans notre maison. On ressort le manège, on repart à la pêche, le cœur dans tous les sens. Mais j'ai pas le choix, faut que j'y aille. On m'attend là-bas avant que l'ennui s'installe. Faut que j'y aille, même si j'aime pas trop le vent des rafales. Faut que j'y aille, non je reculerai pas, moi je vous vois en finale. Bon, faut que j'y aille, on m'attend là-bas, je chauffe sur les rails. Je vois quelque chose à l'horizon, j'sais pas trop pour quelle raison. Une voix me parle tout bas, fredonne cette chanson. On repart le manège, retour à la pêche, le cœur dans tous les sens.
Un extrait de Faut que j'y aille, numéro 1 en ce moment au Québec. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal, avec Fabrice Desmaz à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teuchère en Suisse. René Mikils avec Valérie Le Putain en Belgique. Jacqueline Castonguay et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, nous recevrons le prix France-Québec 2020 qui vous emmènera en Térinou. Et nous irons en mer avec Yann Kefelec. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous.